Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Osons l'intime, une chronique à retrouver chaque semaine sur les ondes de Radio Royan Vercors 93 FM. On retrouve aujourd'hui Céline et Claire du collectif Féminin Naissance, Royan Vercors, pour cette chronique. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et c'est Céline qui va nous parler aujourd'hui du fait de prendre soin de soi, mais dans un contexte particulier de parentalité.
Et oui, et je vais m'adresser davantage aux mères, aux femmes et aux futures femmes, mères. Et je l'ai appelé « prendre soin de soi dans la maternité » ou « le phénomène de l'oubli de soi en devenant mère ». Alors, de quoi il s'agit? Alors, moi, je me suis rendu compte que c'était déjà un challenge de prendre soin de moi quand j'avais pas d'enfant. On est quand même bien conditionnés à être serviables, à être des petites filles, des femmes sages, à prendre soin des autres. Et même si dans ma vie de femme, avant d'être mère, j'ai cherché à m'offrir des espaces pour exister en dehors du prendre soin de l'autre et à m'offrir des espaces de pratique et de soins, je me rends compte qu'une fois devenue maman, c'était comme un château de cartes, tout s'écroule. Et à ma grande surprise, je me sens prise dans, aspirée dans ces injonctions de la bonne mère et de ce qu'on peut appeler le syndrome de Wendy, qui s'oublie pour être complètement, entièrement dévouée aux besoins des autres. Alors ça parle du conditionnement de la mère sacrificielle qui s'oublie, qui se néglige, et de ces injonctions de... gérer tout de front, être forte, être de partout à la fois, la super power woman, qui reste en plus épanouie. Alors, on est conditionné avec tout ça, et avec le temps, il y a aussi toute une accumulation de fatigue, de frustration, de charge mentale, et ça noircit de plus en plus le tableau. Et on en arrive parfois à devenir aigri, irritable, on se perd dans ce rôle de maman. On a des attentes, des besoins inconscients, et parfois on en veut même à notre entourage de ne pas deviner de quoi on aurait besoin. Moi j'ai ces petites phrases un peu typiques, ça se voit pas que je suis dépassée, qu'il doit aller aux toilettes, qu'elle doit faire ses devoirs, qu'il y a du riz qui brûle dans la casserole, et que en fait je suis encore en pyjama et qu'il est 13h. Et je dois vraiment tout demander. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Et avec tout ce que je fais pour vous, vous pourriez quand même pas faire ceci. Et donc, ces mères que nous sommes, on rentre dans ce rôle de victime, tout en étant à la fois un peu les sauveuses de tout notre entourage. Et ça se mélange avec de la culpabilité, de ne pas en faire assez, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment de honte, de « enfin, je devrais être heureuse, on est en bonne santé, j'ai le plus beau trésor au monde, mon bébé, il est là, je l'ai tellement attendu ». De découragement aussi, « j'y arriverai jamais, c'est trop dur », et de comparaison. Pourquoi elles y arrivent toutes et pas moi? Et puis, il y a aussi toutes ces ambivalences de « j'arrive pas à le laisser, le confier mon enfant, mais en même temps, j'étouffe. Mon rôle, c'est de prendre soin de lui, d'être là auprès de lui, et en même temps, j'ai besoin d'exister. » Et un peu comme le disait Claire dans la chronique précédente, on est fort dans une société binaire de « c'est soit ça ou soit ça ». Et comment, en fait, ça pourrait être du « et ». Oui, je peux être là pour mon enfant, mais je peux aussi m'occuper de moi. La parentalité, c'est un grand bouleversement identitaire. Et il y a tout le système qui bouge. Et donc, il faut aller chercher des ressources pour retrouver un équilibre.
Et ça, notamment, t'en parlais dans l'épisode sur le postpartum.
Ouais, c'est vrai que je vous invite à l'écouter. C'est des petites piqûres de rappel et peut-être des ajouts. Pour moi, dans ce challenge du ne pas s'oublier, il y a un peu deux enjeux. C'est comment j'arrive à identifier ce qui me fait du bien, en lien avec ce que tu parlais du self-care, et ce que tu nommais aussi Claire de ce sentiment d'être égoïste si je prends soin de moi. Comment est-ce qu'on arrive à déconstruire ça, à déconstruire tous les « mais j'ai pas le temps »,« mais je suis trop fatiguée », »,« mais comment on arrive à dépasser ça et à ancrer en nous ces phrases que j'ai beaucoup entendues, que j'étais convaincue que oui, elles ont du sens, mais comment je les vis pour moi-même de « si maman va bien, bébé va bien ». Eh oui, oui, c'est vrai, évidemment, ça fait tellement sens. C'est pas évident de passer l'étape du comment ça prend forme dans ma vie à moi. Et un jour, j'ai écouté une conférence de Agnès Popper qui m'a apporté un autre éclairage, aussi celui de, en fait, si je prends soin de mes besoins, j'en demande moins à l'autre. Et j'avais pas réalisé à quel point ne pas prendre soin de mes besoins, c'était un poids pour l'autre. Et j'ai eu toute une discussion avec mon compagnon à ce sujet de, en fait, quand je suis aigrie, irritable, ou toi d'ailleurs, ça amène quelque chose de tellement lourd, et puis moi j'ai envie de te voir heureux, donc je vais me plier en quatre et je vais essayer de faire des trucs pour te soutenir, pour que ce soit plus léger. Mais en fait, si t'allais voir tes potes ou prendre ton cours de danse, je parle pour moi... Je reviendrai sans doute beaucoup plus épanouie, nourrie, disponible. Et je reviendrai et je pourrais nourrir un climat. On parle dans la naissance beaucoup de ce climat d'ocytocine, où ça vient nourrir quelque chose de lumineux, de radieux, d'ouvert, parce que j'ai pris soin de moi. Et ça m'a fait prendre conscience que moi, dans mon récit d'enfant... j'ai beaucoup porté, sans doute en faisant des présomptions, dans les quatre accords Toltec, c'est des suppositions, merci. Des suppositions que ma maman m'a beaucoup répété que j'étais le plus beau cadeau de sa vie, que voilà. Et elle m'a aussi souvent demandé, mais dis-moi que tu m'aimes. Et je crois que j'ai tiré ces conclusions que, comme j'étais le plus beau cadeau de sa vie, je devais aussi la rendre heureuse. Et de la voir triste, effondrée, forcément quatre enfants, dont un malade, trop de charges, épuisement, burn-out. Moi, la petite fille, je devais rester pétillante et serviable pour alléger sa charge et la rendre heureuse. Et je crois que si elle avait été chercher ailleurs des temps pour prendre soin d'elle, ça m'aurait fait le plus grand bien. Et ça m'aurait aussi aidé à devenir une mère et une femme qui s'autorise à exister et qui s'autorise à s'offrir du soin. Donc ne demandons pas à notre entourage de remplir notre vide avec cette phrase aussi qu'on entend « Si vous êtes heureux, je suis heureuse !» C'est tellement lourd d'injonctions et ça fait porter à l'autre la responsabilité de mon bonheur. Et du coup, avec ce sujet-là, il y a un peu pour moi cette question de, en tant que parent, une question qui peut peut-être m'aider à prendre du recul et à me dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour changer ce dans quoi je suis, cette question de mais quel modèle j'ai envie de donner à mes enfants ? Et là, du coup, j'ai envie de vous lire un petit extrait de Glennon Doyle, dans Indompté.
Dont on parle d'ailleurs dans l'épisode où on vous conseille des lectures.
Merci. Je me suis interrogée. Cette décision de continuer à renoncer à toi est-elle vraiment ce que tes enfants ont besoin que tu fasses pour eux ? De tout temps, les mères se sont offertes en martyrs au nom de leurs enfants, comme si celle qui s'effaçait le plus était celle qui aimait le plus. Nous avons été conditionnés à prouver notre amour en cessant lentement d'exister. Quel poids terrible à porter pour les enfants, savoir qu'ils sont la raison pour laquelle leur mère a cessé de vivre. Quel poids terrible pour nos filles, savoir que si elles choisissent de devenir mères, tel sera également leur sort. Car si nous leur montrons qu'être une martyre est la forme d'amour la plus haute, c'est ce qu'elles deviendront. Elles se sentiront obligées d'aimer aussi bien que leurs mères ont aimé, après tout. Elles croiront qu'elles n'ont le droit de vivre pleinement que dans la limite de ce que leurs mères se sont autorisées. Si nous perpétuons la transmission du martyre à nos filles, quand cela se terminera-t-il ? Quelle femme pourra enfin vivre ? Et quand la peine de mort tombera-t-elle ? Devant l'autel ? Dans la salle d'accouchement ? La salle de quel accouchement ? De nos enfants ou de nous ? Quand nous assimilons le martyr à l'amour, nous enseignons à nos enfants que là où l'amour commence, la vie se termine. C'est pourquoi Jung suggérait « Il n'y a pas de plus lourd fardeau pour un enfant que la vie non vécue d'un parent. » Et si l'amour ne consistait pas à disparaître pour l'être aimé, mais plutôt à émerger pour lui ? Et si la responsabilité d'une mère était d'apprendre à ses enfants que l'amour n'enferme pas celle qui aime, mais au contraire la libère ? Et si la mère responsable n'était pas celle qui montre à ses enfants comment mourir à petit feu, mais celle qui montre comment être pleinement vivante jusqu'à sa mort ? Et si la vocation d'une mère n'était pas d'être une martyre, mais un modèle ? Voilà, je vais m'arrêter là. Être une mère parfaite qui arrive à gérer toute sa to-do list mais qui est âcre et épuisée, ou être une mère épanouie, souriante, agréable, mais qui a lâché prise sur ses exigences et qui a son t-shirt sale et je sais pas quoi d'autre. Voilà, ça c'était le premier enjeu, de celui d'identifier, bon je vais le développer encore un peu tout à l'heure, d'identifier qu'est-ce qui me fait du bien. Et le deuxième enjeu, c'est pour moi celui d'arriver à faire une demande, et je vais pas trop le développer ici, je vais plutôt vous renvoyer comment j'arrive à faire une demande quand c'est pour m'offrir de l'espace pour moi. Quand on est dans une société où, comme tu le mentionnais Claire, hein, on prône l'efficacité, la rentabilité, et du coup, j'ai peur de recevoir ou je reçois un refus quand je demande de l'aide. Pour moi, il y a vraiment un enjeu sociétal qui fait que on sait qu'il faut un village pour élever un enfant, mais ils sont où les villages ? Et donc, je vous renvoie pour ça, Karine de Quantique Mama, elle en parle dans un de ses podcasts. Où est passé notre village ? Tisser l'invisible, c'est le podcast 77. Et j'avais encore plein de choses à vous partager. Bah, du coup, je vais résumer peut-être quelques clés pour comment concrètement dans ma vie m'offrir des espaces de soins. Alors... Moi, j'avais entendu beaucoup de choses avant d'être maman. J'avais conscience de beaucoup de choses. J'avais conscience de mes schémas de mère qui s'oublie. On se refait pas du jour au lendemain, hein, clairement. Il y a tous des schémas à déconstruire. Il y a tout un réapprentissage à faire. C'est normal qu'il y ait des résistances. Donc, ne vous infligez pas la double peine, s'il vous plaît. L'invitation, c'est d'y aller un pas après l'autre avec des petits objectifs réalistes dans du court terme et éventuellement tenables dans le temps. Une suggestion, c'est peut-être de prendre des engagements avec toi-même et avec tes moins, avec tes alliés, tes copines qui peuvent, ton conjoint, te renvoyer un peu, t'en es où, comment tu vas et comment tu te fais de la place dans ta vie. Alors, des outils, il y en a plein. On les a un peu listés dans la chronique précédente. Moi, il y a un peu plusieurs questions qui m'aident à identifier. Alors, quand j'arrive pas à répondre à la question « qu'est-ce qui me ferait du bien ?», il y a cette autre question de « qu'est-ce que je ne veux plus ?». Et il y a aussi cette question de « ah, et si ma copine venait d'accoucher, qu'est-ce que ce serait le plus beau cadeau que je pourrais lui faire ?» Et si je peux le faire à l'autre, en fait, je pourrais le faire à moi aussi, ce cadeau. Est-ce que c'est de lui offrir un massage, un soin chez l'esthéticienne, des repas livrés à domicile, une baby-sit, ce serait quoi qui serait vraiment quelque chose qui moi à moi enfin que moi j'ai envie d'offrir à l'autre et qui finalement pourrait sans doute sûrement me faire du bien à moi. Et un outil que j'ai reçu là très récemment cette semaine, c'est celui d'identifier en trois points. D'abord l'état de nœud dans lequel je suis. Ok, je suis agacée, je suis irritée, j'en veux à mon compagnon qui n'anticipe pas plus, qui n'initie pas, qu'on prenne un temps, un ou deux, pour se retrouver, par exemple. Ensuite, je nomme ce à quoi j'aspire, ce que je veux, ce que je souhaite. Je veux vivre des moments de complicité en famille, d'écouter, de rire. Je veux retrouver le goût de la danse. Et la troisième étape, c'est comment je fais pour y arriver concrètement? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour accéder à ce souhait-là? Ok, pour ça, j'ai besoin de danser sur de la musique le soir avec les enfants avant d'aller au lit. J'ai besoin de demander à mon compagnon qui nous organise un week-end en amoureux. J'ai besoin de m'inscrire à un cours de danse hebdomadaire, par exemple. Et je sens vraiment que c'est un outil, moi, qui m'aide à aller vers du concret et du précis et à affiner et à affirmer aussi ce à quoi j'aspire. Et puis, je terminerai avec quelques questions phares, un peu comme mes baromètres, pour checker de moi à moi où j'en suis. C'est, est-ce que là, dans mon ici, maintenant, est-ce que je continue à me respecter? Est-ce que mes choix d'aujourd'hui, ils sont beaux et sincères pour moi? C'est Glennon qui nous transmet cette clé-là. Est-ce que notre système familial, il est en équilibre? Et est-ce que c'est vivant pour moi, dans le présent, dans mes choix? Tout ça, ça veut aussi dire apprendre à mettre mes limites, à dire non, dans une fermeté et une clarté douce. Ça veut peut-être aussi dire m'autoriser à prendre ma place, parce que, par essence, parce que j'existe, j'ai cette place et elle n'est pas à réclamer, négocier, elle est là. Et ça veut parfois dire accepter de m'entourer peut-être de professionnels de mon entourage pour trouver des clés pour mieux comprendre ce qui se vit en moi, dans le lien avec mon corps, avec mes émotions, avec tout ce qu'il y a dans ma tête, dans ce processus de mue, de changement d'identité. Comment je trouve des alliés qui viennent me soutenir? Alors la parentalité, c'est un cadeau, mais c'est vachement confrontant. Ça vient rouvrir des vécus, des blessures, des croyances, des suppositions. Et en même temps, c'est une opportunité pour choisir de changer de route, de faire autrement et accueillir que la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais qu'on est capable de faire des choses difficiles. C'est aussi Glennon qui le dit. Mais que le vivant n'est, les pépites ne sont pas forcément des waouh, mais elles se trouvent aussi dans les choses qui émergent. Et si elles émergent, les choses plus difficiles, si elles émergent, c'est qu'on a le potentiel de les transformer et du coup d'être plus proche de soi. Voilà. Eh bien, dans le prochain épisode, je vous parlerai de la danse qui a été pour moi, qui est encore pour moi un outil pour me retrouver et prendre soin de moi. Et je vous laisserai quelques ressources. Glennon, Indompté, le podcast de Karine Quantique Mama. C'est vrai que je l'ai pas nommé, mais Ariane Cessia, Les peurs de la grossesse et de l'accouchement.
C'est un livre, c'est ça, d'Ariane?
C'est un livre, oui.
Et moi, je pense aussi à la BD de Art Mela sur la mère sacrificielle, qui est pour l'instant disponible en e-book, mais qui, a priori, bientôt sera édité en papier.
Carrément.
On vous listera toutes ces ressources sur le site internet de Radio Royan Vercors quand on aura donc mis en ligne cette chronique que vous pouvez réécouter. Donc, j'en profite pour le rappeler donc, sur le site. Et un grand merci à Céline donc pour cette chronique et ce témoignage personnel aussi donc sur le fait de prendre soin de soi dans la parentalité quand on devient maman notamment. Et on vous retrouve toutes les deux, Claire et Céline, donc toutes les deux membres du collectif Féminin Naissance Royan Vercors. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Osons l'intime.
Merci.
Merci.